Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Au cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour vers 13h15 sur Europe 1, le moment est venu de nous rafraîchir un peu la mémoire en compagnie de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Et vous revenez aujourd'hui sur un épisode sanglant de l'histoire allemande, la nuit des longs couteaux.
Oui, vous savez, cette exécution programmée des SA, étape essentielle dans l'installation d'Adolf Hitler au pouvoir.
Et pour en parler sur Europe 1, vous avez invité à vous rejoindre Fabrice Dalméda.
Fabrice Dalméda qui connaît si bien notamment l'histoire du nazisme et qui nous aidera à dresser le bilan de cet événement historique majeur.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans cette nuit des longs couteaux, il n'y a ni nuit ni couteau. D'ailleurs, la prétendue nuit a duré en fait 72 heures et ses principaux événements se sont déroulés à la lumière du jour. Alors vous allez me dire, pourquoi ce nom de nuit des longs couteaux ? Eh bien, c'était le titre d'une rengaine pour le moins douteuse que chantaient les SA dans les débuts du nazisme. Voilà ce que disait la chanson. « Nous aiguiserons nos longs couteaux sur le bord des trottoirs et nous débarrasserons l'Allemagne de la réaction. Il y suffira d'une nuit, la nuit des longs couteaux. » Autrement dit, les SA attendaient le grand soir où ils allaient faire le ménage et supprimer les grands officiers de l'aristocratie, les capitaines d'industrie, les maîtres de la finance, tous ces tenants de la vieille Allemagne contre lesquels ils s'étaient construits. Ironie de l'affaire, c'est ce grand soir qui va venir plus vite qu'ils ne l'auraient pensé, mais qui va se faire contre eux. C'est eux qui vont en faire les frais. Dans cette émission, nous allons voir comment on passe, presque sans transition, du statut d'ami privilégié, irremplaçable, à celui d'ennemi public à abattre. Nous allons voir jusqu'où peut aller le reniement et la trahison à partir du moment où existent de forts enjeux de pouvoir. 30 janvier 1933, le maréchal von Hindenburg, qui est le président de la République de Weimar, le maréchal von Hindenburg de guerre lasse, finit par appeler Adolf Hitler à la chancellerie. Du coup, l'Allemagne, sans tout à fait s'en rendre compte, bascule dans le nazisme d'État. Parmi les partisans du nouveau chancelier, il y a environ 300 000 personnes qui pavoisent bruyamment. Dans moins d'un an, ces gens-là seront 2,5 millions. Autant dire qu'ils ont le vent en poupe. Ces centaines de milliers d'hommes composent donc les SA. Autant dire qu'ils sont tous ensemble le bras armé de Hitler, ces hommes de main, une milice paramilitaire qui, après avoir fait office de service d'ordre du parti, est devenue la garde prétorienne. SA, ce sont les initiales de Sturmabteilung, ce qu'on traduit par section d'assaut. Alors, qui sont les hommes derrière le sigle ? En grande majorité, ce sont des hommes issus de la petite bourgeoisie, notamment de l'artisanat. Un grand nombre sont des gens déçus, aigris, écœurés par la politique classique, qui souffrent de la grande crise et surtout n'ont pas digéré la défaite de 1918 et le traité de Versailles l'année suivante. Des gens un peu perdus, il faut bien le dire, attirés par les idées simples et qui développent un populisme autant de gauche que de droite. Et ça, c'est très important. Pour tout vous dire, c'est même le cœur de notre histoire d'aujourd'hui. Il faut savoir que, notamment depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir, de nombreux transfuges de la gauche, à commencer par des communistes, ont infiltré les rangs des SA. Vous savez que les membres des sections portent des chemises brunes. Eh bien, dans un certain milieu conservateur, on les surnomme les sections Biftek, brunes à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Je pense que certains d'entre vous, et notamment nos plus jeunes auditeurs, se disent « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens de gauche qui se retrouvent derrière un extrémiste de droite comme Adolf Hitler ?» Ça n'est pas d'ailleurs sans avoir des résonances, tout ça, bien entendu. Justement, et c'est là qu'il faut rappeler une vérité souvent oubliée, c'est qu'au départ, dans les fondements de la doctrine nationale-socialiste, il y a, comme son nom l'indique, une certaine inspiration socialisante. Hitler a fixé les principes de son action près de 15 ans avant d'accéder au pouvoir. Ça constitue un programme en 25 points qu'il a exposé en février 1920. Or, parmi ces 25 points, il y en a 4 ou 5 qui sont clairement anticapitalistes, qui prônent la nationalisation des trusts, l'intéressement des salariés, des lois contre le prêt à intérêt et la rémunération du capital, etc. Alors, bien sûr, ça c'était au temps où Hitler avait besoin de séduire un électorat populaire. Depuis, il a fait du chemin, il a grimpé dans l'échelle sociale et sur l'échelle qu'il l'a mené au pouvoir, il a goûté à certains privilèges, il s'est allié à la grande finance, il bénéficie de plus en plus du soutien de ces puissants trusts qu'il prétendait nationaliser autrefois. Bref, Hitler s'est bien volontiers converti au capitalisme, mais ce n'est pas le cas de toutes ses troupes. Et ce n'est en tout cas pas le cas des SA, dont les chefs continuent à mettre constamment l'accent sur la dimension révolutionnaire du national-socialisme. Vous commencez à saisir le problème. Pendant des années, Hitler a eu besoin de ses gros bras inféodés à sa cause. Il a utilisé ses malabars en culotte de peau pour faire de l'agitation, pour créer un climat de peur, pour lui frayer un chemin dans la jungle de Weimar. Seulement maintenant qu'il est chancelier du Reich, qu'il fait les yeux doux aux élites économiques et militaires du pays, maintenant qu'il veut faire autant que possible bonne figure à l'étranger, les malabars et les gros bras font tache dans le tableau, si j'ose dire. Vous savez, c'est un petit peu comme ces hommes d'affaires qui ont besoin de l'énergie d'une épouse dévouée pour se faire une situation et puis qui réalisent ensuite qu'elle n'est plus présentable pour les accompagner dans les cocktails. On connaît ce genre de situation. C'est vrai qu'en l'occurrence, le chef des SA, Ernst Röhm, n'est pas franchement présentable. C'est un ancien officier de carrière, un héros de Verdun, un gros type tout à fait brut de décoffrage qui parle vertement à son copain Hitler et qui ne s'en laisse pas facilement compter. Surtout, et c'est ce qui va causer sa perte, Röhm n'a pas accepté le net virage à droite du camarade Adolf. C'est qu'il en tient pour sa révolution, le gros Röhm. Et dès l'été 1933, il a lancé l'idée de seconde révolution. Ainsi, Röhm écrit dans le bulletin des SA « Le moment est venu pour la révolution nationale de devenir une révolution nationale socialiste ». Et il ajoute imprudemment, parlant de Hitler et de son entourage, vous allez voir que l'on revient au thème des longs couteaux, « Nous continuerons notre combat avec eux ou sans eux, et s'il le faut, contre eux. » Eux, ce sont les nouveaux tenants du régime. Collectivement, ça désigne l'industrie et la finance d'un côté, l'armée traditionnelle, la Reichswehr, de l'autre. Entre parenthèses, cette armée volontiers réactionnaire s'inquiète beaucoup de la prétention des SA à devenir la future armée révolutionnaire allemande, un petit peu sur le modèle français des soldats de l'an 2, vous savez. Et au printemps 1934, au cours d'une traversée à bord du croiseur Deutschland, Hitler va devoir passer un pacte secret avec la Reichswehr, un pacte secret sur le dos des SA, évidemment. Voilà pour les ennemis collectifs, institutionnels des SA. Voyons maintenant quels sont leurs ennemis personnels. Ils en ont deux principalement, qui sont Hermann Göring, que je n'ai pas besoin de vous présenter, et qui n'a jamais caché ses sympathies pour les élites aristocratiques et volontiers réactionnaires, et puis un certain Heinrich Himmler, qui lui dirige une émanation des SA, l'élite des SA si j'ose dire, la garde rapprochée du Führer, ces trop fameuses phalanges de l'ordre noir qu'on appelle les SS, Schutzstaffel, les unités de protection. Eh bien, sous l'influence personnelle de Göring et de Himmler, l'alliance des élites et de l'armée servie par les SS, ne l'oublions pas, et par la police politique, la Gestapo, toute cette coalition d'intérêts va avoir la peau des SA. Je vous ai dit que j'allais vous raconter comment un ami cher devient un ennemi à abattre. Voici les derniers mots d'une lettre adressée par Adolf à son cher ami Ernst Röhm, chef incontesté des SA, le 1er janvier 1934, en lui présentant tous ses vœux pour l'année qui allait le faire disparaître dans un bain de sang. « Sache combien je suis reconnaissant au destin de pouvoir appeler des hommes tels que toi mes amis et mes camarades de combat. Avec ma très sincère amitié et toute ma reconnaissance, ton Adolf Hitler. » Si c'est pas gentil, un bon copain comme ça, hein, pas ingrat du tout. Pendant ce temps-là, dans l'ombre, les ennemis de la révolution SA œuvrent efficacement. Des espions à la solde de Göring, de Himmler, de Heydrich, engrange les impairs de Röhm contre le nouveau régime et contre son chef. Adolf est ignoble, il nous trahit tous, a lâché un soir le chef des SA. Il parlait comme ça à quelques hommes de confiance. De confiance, croyait-il, car ses propos se retrouvent dès le lendemain sur le bureau du Führer. La Gestapo monte des dossiers terribles contre les SA, leurs financements douteux, leurs actions déstabilisantes, les terribles sévices qu'ils infligent à leurs prisonniers, car à l'époque, les SA disposent de leur centre d'interrogatoire et de leur propre camp d'internement. On va en reparler tout à l'heure avec Fabrice d'Almeida. Le sadisme des chefs SA est constamment dénoncé dans des notes à Hitler, de même d'ailleurs que leur mœurs jugées suspectes. Ce n'est un secret pour personne que Röhm, entre autres, est constamment entouré de beaux jeunes hommes qui savent jouer de leur charme. Tout ça est consigné et la liasse noire s'épaissit d'heure en heure. Pour autant, Hitler lui-même refuse de franchir le pas. Après tout, le gros Ernst n'est-il pas son camarade de combat, le vieux soutien des temps difficiles? On a beau s'appeler Hitler, on a quand même des sentiments. D'ailleurs, dans son entourage, Goebbels aussi tente à soutenir plus ou moins les SA. Il ne faut pas oublier que le chef de la propagande a longtemps incarné la tendance socialiste au sein du nazisme et qu'il approuve secrètement les idées de Röhm sur la nécessité d'une seconde révolution. En même temps, Goebbels est bien placé pour saisir la moindre inflexion de la politique hitlérienne. Et il saura s'arrêter à temps pour ne pas devenir suspect au tenant de la nouvelle ligne conservatrice et donc réactionnaire. Hitler est ulcéré par le retour permanent de cette idée tordue de seconde révolution qui tombe au plus mal, juste au moment où il était en train de se concilier les bonnes grâces de l'establishment militaire. Décidément, ce cochon de Röhm, comme on l'appelle dans un certain cercle, n'est pas sortable. Le 4 juin, le Führer l'a convoqué dans son bureau et 5 heures durant l'a admonesté et supplié de renoncer à ses idées révolutionnaires complètement dépassées dans une optique de pouvoir. Mais rien de concret ne sort de cette entrevue de la dernière chance. Hitler, le lendemain, ordonne aux SA de partir en permission pendant tout le mois de juillet. Et en réponse, Röhm convie son vieux complice à rejoindre les chefs de la SA pour une grande journée de réconciliation le 30 juin dans une station thermale bavaroise, d'ailleurs proche de Munich, une station qui s'appelle Bad Wiessee. Le rendez-vous est pris, 30 juin. Voilà une date qui bientôt va entrer dans l'histoire.
Cœur de l'histoire.
Franck évoque aujourd'hui sur Europe 1 la nuit des longs couteaux, étape essentielle dans l'installation d'Adolf Hitler au pouvoir.
Alors vous avez bien compris ce rendez-vous du 30 juin, Röhm invite Hitler en quelque sorte et l'occasion est trop belle pour les ennemis de Röhm, les ennemis des SA, c'est-à-dire essentiellement Göring, Himmler et les leurs. C'est une occasion idéale. Pour eux, le moment est venu de porter l'estocade. Par tous les moyens, de tous côtés, ils vont faire pression sur Hitler. Même le vieux président Hindenburg est enrôlé pour la circonstance. Le 21 juin, il reçoit Hitler en audience et lui annonce que si jamais l'état de tension qui règne à ce moment-là en Allemagne ne devait pas prendre fin plus rapidement, il serait contraint de proclamer la loi martiale et de confier les pouvoirs à l'armée. Vous l'avez compris, les élites conservatrices sont bien décidées à en finir une fois pour toutes avec les ultimes ferments révolutionnaires qui tournent autour d'Hitler. Göring et Himmler ne s'en tiennent pas là. Ils vont jusqu'à fabriquer des faux documents, toutes sortes de fausses preuves selon lesquelles les SA seraient en train de fomenter un putsch, ni plus ni moins. Cette fois, Hitler va se laisser fléchir. Qu'il soit convaincu du danger ou bien qu'il feigne de l'être, en tout cas, il entre dans une de ses colères légendaires. Et puis il se tait, il se rembrunit. Ça, c'est encore plus dangereux. Le 28 juin, Hitler est à Essen pour assister au mariage du Gauleiter local. Et puis le 29, comme s'il cherchait à se dédouaner de ce qu'il s'apprête à faire, il se rend sur le Rhin à Bad Gottesberg, dans la pension de famille tenue par un ancien camarade de la Grande Guerre, une sorte de retour aux sources, comme s'il devait donner des gages de fidélité. L'un des événements importants de cette veillée d'armes, c'est le retournement du docteur Goebbels. Le 29, il est arrivé à Bad Godesberg par avion spécial et il a signalé au Führer, ce qui était faux du reste, que bravant l'ordre de départ en permission, la SA berlinoise venait de se mettre en état d'alerte. À l'issue du dîner, Hitler a donné ses ordres. Göring et Himmler rentrent à Berlin pour écraser la sédition SA. Et lui, avec Goebbels, eh bien, il va se rendre tout de suite à Munich. Après tout, les chefs SA lui ont donné rendez-vous à Bad Wiessee, ça tombe bien. Le 30 juin, à 2h du matin, Hitler s'envole pour Munich et tandis que son avion, c'est un trimoteur, un Junker 52, s'approche de l'aérodrome d'Oberwiesenfeld, l'armée du Reich reçoit l'ordre d'occuper le siège du parti à Munich, ce qu'on appelle la Maison Brune. À 4h, au moment où Hitler atterrit, il apprend que les chefs de la SA de Munich ont été arrêtés. 800 SS ont été par ailleurs transportés à Munich dans des camions de la Reichswehr. Les militaires se sont montrés très conciliants sur cette affaire. Et à 5h, accompagné de SS et de membres de la Gestapo, Hitler lui-même prend la route de Bad Wiessee, cette station thermale donc au bord d'un lac. Il y arrive un petit peu avant 7 heures et là tout de suite il prend la direction de l'hôtel Anselbauer où se trouve Röhm avec ses hommes. En entrant dans l'hôtel, Hitler tombe sur le jeune comte von Spreti, qui est l'aide de camp de Röhm. Il se rue sur lui, lui donne des coups de cravache au visage et puis il le laisse aux mains des SS et lui se précipite jusqu'à la chambre de Röhm. Heines, de son côté, était en train de dormir dans une chambre proche avec son chauffeur. Ein Lustknabe, dira Goebbels, c'est-à-dire un garçon de joie. Tous deux sont abattus à bout portant. Hitler frappe brutalement à la porte de Röhm, qu'il réveille. « Qui est là ? C'est moi, Hitler, ouvre !» « Comment, t'es déjà là? Je ne t'attendais qu'à midi, » dit Röhm en ouvrant la porte. Hitler rentre, fou de colère, il insulte Röhm qui réplique sur le même ton. Et là, Hitler en profite. « Qu'on l'arrête !» hurle-t-il. Pendant ce temps, à Munich, SS et Gestapo ont procédé à de nombreuses arrestations. À midi, dans la Maison Brune, Hitler pourra recevoir les chefs des SA qui n'ont pas été arrêtés et leur annoncer la destitution de Röhm et son remplacement par Victor Lutz. Le soir même, sur une liste dressée par la Gestapo, il soulignera 110 noms. C'est tous ceux qui doivent être fusillés dans le secteur. Finalement, sur intervention du ministre de la Justice de Bavière, ce nombre sera réduit à 19, mais ce n'est qu'un début tout ça. Deux SS rendent visite à Röhm, qui à ce moment-là donc est dans sa cellule, dans sa prison. On lui donne un revolver pour qu'il se suicide lui-même. Il refuse de se suicider. Hitler n'a qu'à aller jusqu'au bout de la tâche, dit-il. Et finalement, on l'abat lui aussi, à bout portant. Le massacre ne fait, je vous le dis, que commencer. Assassinat, fusillade vont se multiplier le lendemain, le dimanche 1er juillet, à Munich mais aussi à Berlin. Dans la capitale, quelques 150 chefs SA ont été rassemblés à l'école des cadets de Lichterfelde et ils sont fusillés par des pelotons de SS et d'hommes de la police spéciale de Göring. Hitler, à ce moment-là, est rentré à la chancellerie, il y est depuis la veille au soir. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite à propos de cette nuit des longs couteaux et qui pourtant est d'une importance capitale pour saisir la portée de l'événement, nous allons y revenir dans un instant, c'est Hitler a profité de l'émotion et de la confusion créée par cette série d'exécutions sommaires, exécutions sans procès, vous avez bien compris, mais qui prétendaient revêtir une forme plus ou moins légitime à défaut d'être légale. Il a profité du trouble national, international, suscité par cette Saint-Barthélemy des SA, si j'ose dire, pour liquider de la façon la plus inouïe toutes sortes de personnalités politiques, mais pas seulement politiques, toutes sortes de personnalités qui le gênaient dans ses manœuvres. Pour ces crimes-là, il n'y a même pas eu de rassemblement ni de fusillade, on a simplement envoyé des agents de la Gestapo, parfois ce sont des SS en civil, on reviendra sur tout ça, on les a envoyés au domicile ou au bureau des personnes inscrites sur la liste fatale, ce sont des hommes politiques, de hauts fonctionnaires, et voilà bien le règne de l'arbitraire absolu et sauvage qui s'installe. Hitler en a d'ailleurs profité pour régler de vieux comptes personnels, ainsi on le voit qui fait assassiner l'ex-commissaire d'État qui s'était opposé à son putsch de 1923, il fait assassiner aussi le vieux Pasteur qui avait corrigé les épreuves de Mein Kampf, sous prétexte que cet homme d'église connaissait sans doute des épisodes embarrassants de la vie amoureuse de son ancien fidèle. Le bilan en mort de ces deux journées et demie de purge sanglante que l'on appelle, ironie suprême donc, la nuit des longs couteaux, ce bilan est difficile à établir, les historiens ne s'accordent pas sur le chiffre, en tout cas il y a eu pas mal de victimes, plusieurs centaines, c'est beaucoup plus que ce que devait reconnaître Hitler lui-même dans le discours bilan qu'il prononce le 13 juillet 1934 devant le Reichstag. Le bilan pratique, lui, est beaucoup plus facile à établir. La SA a été décapitée. Elle s'est trouvée définitivement marginalisée. On peut dire que la SS a gagné son autonomie. Dès la fin du mois de juillet, l'armée consolide ses positions et le régime hitlérien a donné des gages aux élites conservatrices. Car c'est sur un plan politique que le bilan sera sans doute le plus facile à dresser. Dès le 1er juillet, Göring va pouvoir déclarer « Le droit et la volonté du Führer se confondent ». Autrement dit, Hitler est désormais libre de tuer qui il veut, voilà un bon moyen de faire rentrer dans le rang les derniers récalcitrants. Alors, à qui cette purge a-t-elle bénéficié? Comment a-t-elle été perçue par le peuple allemand et par les élites? Quelles seront ses conséquences ultimes? Voilà quelques-unes des questions que nous allons nous poser en compagnie de Fabrice Dalméda.
Sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec extrait sur Europe 1 des Danais, extrait de la bande originale du film de Luchino Visconti, composé par Maurice Jarre. Et vous accueillez votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Fabrice Dalméda.
Bonjour Fabrice.
Bonjour Franck
Ferrand. Merci d'être des nôtres. Ce film de Visconti a donné de l'épisode de La Nuit des Longs Couteaux une vision pour le moins particulière. On a l'impression d'une sorte de grande orgie homosexuelle organisée par les SA et que viennent surprendre quelques tueurs à gages SS. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé évidemment. C'était la vision de Visconti.
La vision de Visconti, mais la vision aussi de la presse du Troisième Reich qui insiste beaucoup justement sur les turpitudes morales de la direction SS. On insiste beaucoup sur le fait que c'est les chefs SS qui ont failli. Le SS de base là-dedans n'est pas mis en cause.
Oui.
Voilà. Oui. Corrigeons tout de suite les gros lapsus. Nous parlons de SA.
C'est ça. Ce sont les SA.
Voilà. Alors... donc c'est eux qu'on critique justement pour leur homosexualité. Et c'est un peu un changement parce que jusqu'à présent, la question homosexuelle dans les milieux d'extrême droite n'avait pas été à ce point-là l'objet d'une dénonciation. Et on peut même dire qu'il y avait des mouvements, notamment des mouvements de jeunes plutôt d'extrême droite comme les Van der Vogel, dans les justement on récusait les relations avec les femmes parce que ça ne permettait pas de faire des vrais guerriers.
Il y a un côté presque Alexandre le Grand et antique dans ces références.
Exactement.
Nazies. Alors cette nuit des longs couteaux qui donc, nous l'avons compris, s'est déroulée sur plus de deux jours en réalité. La plupart des massacres et des fusillades ont eu lieu tout à fait à la lumière du jour.
Oui.
Cette prétendue nuit des longs couteaux a été perçue d'une façon très orientée par la presse. Comment a-t-elle été perçue par l'opinion allemande d'abord, par la population? Parce que les SA étaient quand même l'émanation directe de cette population et de ses revendications essentielles.
Oui, il y a plusieurs étapes parce que dans un premier temps, la population va recevoir ça par la presse. Mmh. Et il faut se souvenir qu'en 1934, on n'est pas encore dans un sentiment de soupçon complet vis-à-vis de ce nouveau pouvoir qui a un peu plus d'un an d'existence. Donc on le regarde et on lit encore les journaux avec une forme de naïveté. Et donc, on va effectivement croire que c'est la question de la déviance homosexuelle qui est en cause. On va effectivement croire qu'il y avait un putsch. D'ailleurs, c'est le nom qu'on donne, hein, le putsch de
Rome. Ce putsch, tout le monde y croit.
Ben oui. Et il n'y a pas d'éléments à l'époque pour le contredire. D'ailleurs, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de jugement, il y a juste des exécutions et les affirmations du gouvernement. Donc, l'opinion est vraiment poussée dans cette optique.
Mais en même temps, ça paraît invraisemblable qu'un gouvernement légal, quel qu'il soit, parce qu'Hitler maintenant est devenu le chancelier du Reich, il est l'autorité légale, d'ailleurs démocratiquement arrivé au pouvoir. Mm-hmm. Comment expliquer que des personnes qui occupent le pouvoir puissent mener comme ça une purge sans procès, sans respecter aucune des procédures normales? Ça aurait dû alerter l'opinion, ça, rien que ça.
Mais non, parce que c'est là le paradoxe, ils sont dans le cadre de leur loi. À la suite de l'incendie du Reichstag en 1933, le 28 février 1933, on a adopté des séries de mesures d'urgence qui permettent d'arrêter, d'interner, pas plus normalement, les ennemis du Reich, les ennemis de la Nouvelle-Allemagne. Or, ils l'ont fait contre les communistes, les socialistes et les syndicalistes, et là, ils le font contre, disent-ils, des gens qui sont en train de préparer une attaque contre l'Allemagne. C'est un ennemi intérieur, c'est cette fameuse légende de l'ennemi intérieur qui est reprise et appliquée à l'état-major SA.
Alors, il y a deux populations minoritaires qui intéressaient particulièrement Hitler à ce moment précis de son installation au pouvoir. Ce sont d'une part les super-élites industrielles et puis d'autre part l'état-major de la Reichswehr. Donc, comment est-ce que les militaires de haut niveau et comment est-ce que les financiers et les industriels ont perçu cette nuit des longs couteaux?
C'est très ambigu parce que d'un côté, il y a l'élimination d'un personnage dont on pensait qu'il était dangereux, qui est en l'occurrence Röhm, avec l'idée d'une SA qui voulait créer une espèce d'armée populaire en contradiction avec le traité de Versailles, ce qui risquait de créer des problèmes internationaux, en contradiction avec l'armée professionnelle qui était en place. Mais dans le même temps, dans les liquidations qui vont avoir lieu, dans les 200 morts, on relève les cadavres d'officiers supérieurs. Kurt von Schleicher, l'ancien chancelier, est ancien chef d'état-major. C'est un général. Son ami Kurt von Hammerstein, qui était le chef d'état-major des armées qui a permis l'accès de Hitler au pouvoir, voit donc le meurtre d'un de ses amis d'une manière assez saisissante. Donc, à la fois, ils sont satisfaits. En même temps, ils se disent
Voilà, on a l'impression prudence. Qu'ils sont satisfaits sur le fond et très inquiets sur la forme quand même. Notamment dans la haute société allemande, on se dit ce Hitler devient un peu dangereux.
Oui, mais il y a quand même le sentiment qu'il y a une dérive qui est stoppée. Mais c'est vrai qu'on a oublié ça. On a l'impression que quand Hitler arrive au pouvoir, tout s'est installé d'un coup. Non, oui. Non. Cette dictature, ce totalitarisme,
voilà, dire,
se construit par étapes. Et l'étape de juin 34 est une étape déterminante, effectivement, parce qu'à ce moment-là, c'est ce que vous avez dit, Franck Ferrand, tout à l'heure, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que ce n'est pas seulement l'arrestation et la détention, mais c'est bien la mort qui est en cause, c'est-à-dire qu'on peut être exécuté si on est un ennemi de l'État,
sans
parce que c'est cette notion qui est encore là. Exactement.
Et même si l'on n'appartient pas, en l'occurrence, au groupuscule visé, puisque un certain nombre des victimes de cette nuit des longs couteaux n'étaient pas des SA, et étaient même bien loin, non seulement d'être des SA, mais de s'être politiquement engagés.
Oui, des conservateurs.
C'était des ennemis personnels d'Hitler.
Alors, pas seulement d'Hitler, il y a aussi, on cite souvent d'ailleurs un chef qui était un SS, justement, qui est exécuté par un de ses concurrents SS, par le fameux Kurt Barzelowski, excusez-moi, qui va être plus tard un chef de Einsatzgruppen, donc un grand massacreur devant l'éternel. Mais ce jour-là, il décide d'éliminer un de ses concurrents au sein de la SS, un colonel comme lui. Donc il y a des logiques personnelles qui jouent, mais il y a quand même une coordination, faut pas le cacher. Parce que Hitler a toujours joué le côté, oui, ce sont des débordements, je ne suis pas entièrement responsable de tout cela, jamais je n'aurais fait tuer la femme de Kurt von Schleicher, qui a été assassinée avec son mari dans son lit. Il faut se figurer ces scènes-là. Eh bien, Hitler dit, ce sont des débordements. Mais en fait, il a fait établir des listes. Il a demandé à Himmler que nom par nom, on sache qui on tue. Au moment où on exécute une partie de l'état-major SS, il est en train d'organiser excusez-moi. Au moment où on exécute une partie de l'état-major, il a fait organiser une garden party pour avoir une forme d'alibi. Et c'est dans cette garden party qu'il réunit un certain nombre de dirigeants avec lui et qu'il prenne les décisions pour les ultimes exécutions. Donc il faut penser que le machiavélisme, la prudence, la peur, il a tardé avant d'agir, il a agi avec une grande violence, mais il ne veut
il
pas se l'éclabousse.
Il a joué la comédie, parce qu'il a feint à plusieurs reprises, à 3 ou 4 reprises pendant l'événement, on le voit feindre des colères noires. En fait, ce sont des colères de commande, c'est bien pratique en fait, ça permet de faire monter le...
Je pense quand même que c'est quelqu'un qui a une montée en température très rapide. C'est-à-dire que, non, mais faut quand même le dire, on a des témoignages. Mais la description qu'on a faite, là, par exemple, sur Röhm, elle est contredite, par exemple, par Erich Kemka. C'est-à-dire son chauffeur, lui, décrit, parce qu'il l'accompagne, et donc il décrit la scène, et il dit non, pas du tout. Il est rentré dans la chambre, il lui a dit, voilà, Röhm, tu es en état d'arrestation. Et Röhm était effectivement pas bien réveillé. Il dit, pardon, mon Führer. Il lui dit, tu es arrêté. C'est tout. Et il change de chambre. Il n'attend même pas que l'ordre soit exécuté par ses hommes qui, derrière, se précipitent et lui passent les menottes. Il est déjà passé dans la chambre suivante et il enchaîne. Et il enchaîne de manière mécanique. Donc là, il n'est pas dans ses pires colères. Parce que ses pires colères, on les a vues. Il est capable de frapper ses collaborateurs, de hurler et il le fera même face à l'état-major au pire moment de la défaite allemande en 44.
Est-ce que c'est Hitler lui-même qui décide de cet événement incroyable? Ou est-ce que Göring, Himmler, Heydrich ont joué un rôle déterminant?
Moi, je crois que c'est vraiment lui. Et je crois que c'est lui avec le caractère qui est le sien. C'est-à-dire qu'il essaye toujours de recueillir le maximum d'approbation parce qu'il n'aime pas le risque, Hitler. Il prend ses décisions toujours à la fin. Il est très dilatoire. On le voit pour les lois, par exemple. Il tarde à prendre ses lois. On est obligé de lui représenter 3-4 fois les projets de loi. Et il attend. Et puis il n'y a vraiment qu'à la dernière minute que là, il y va. Mais quand il y va, c'est décidé une fois pour toutes, il n'y revient pas. Et là, c'est exactement la même chose qui se passe. À la fin, il est seul à prendre la décision et à pousser à son application de la manière la plus radicale.
Röhm ne se doutait de rien. Il était
il l'a pas vu venir.
Convaincu d'une sorte d'impunité, en quelque sorte. Il faut dire qu'il avait pour lui une force armée considérable.
Oui, mais je crois qu'il avait été en partie prévenu, et je crois surtout qu'il a péché par confiance dans son entourage. Quelqu'un comme Victor Lutze, par exemple, qui est un des généraux SA, joue un double jeu, c'est-à-dire qu'à la fois il pousse Röhm et immédiatement il va faire des rapports à Hitler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il obtient la succession de Röhm à la tête de la SA, parce qu'on sait qu'il sera un homme bien obéissant, et ensuite il prendra la tête d'ailleurs de ce qu'on appelle la Ordnungspolizei, c'est-à-dire la police en uniforme. Parce que ce qui se joue là, c'est effectivement une querelle entre paramilitaires et militaires, mais c'est aussi une querelle entre police et armée. Parce que la SA est devenue l'une des principales polices parallèles du Troisième Reich. Et ça, c'est un jeu qui dérange beaucoup les institutions.
C'est une constante historique. On pourrait citer un certain nombre d'autres exemples historiques. À chaque fois qu'une police finit par acquérir une forme d'autonomie, ça aboutit à un massacre et à une reprise en main de l'État.
J'irais peut-être même plus loin que vous, Franck, parce qu'en fait, à chaque fois que la police déborde de ses activités normales, eh bien on peut dire qu'il y a un danger dans l'exercice du droit.
Et non seulement un danger dans l'exercice du droit, mais il y a évidemment une conscience de danger de la part de ceux qui exercent le pouvoir et qui ne se laissent évidemment pas faire.
Ou qui se laissent phagocyter, c'est toujours le risque.
Ça peut arriver. On ne citera pas d'exemple historique.
On pense à Napoléon et à Fouché, bien sûr.
Est-ce que les SS sont les premiers bénéficiaires de la nuit des longs couteaux?
Incontestablement.
Nous y voilà, là nous parlons bien des SS.
Là c'est bien les SS, c'est bien les SS et c'est l'homme que vous citiez tout à l'heure, c'est Himmler. Là c'est clair, il n'y a plus d'autres institutions qui puissent servir de colonne vertébrale au parti et qui puissent donc structurer l'ensemble des services de sécurité du Troisième Reich. Les SS, comme les SA étaient devenus police auxiliaire, on l'a oublié ça, ils avaient reçu pratiquement le serment d'officier de police judiciaire, ils pouvaient procéder à des arrestations, c'est de ça dont on parle. Et là, à partir de 1934, seuls les SS pratiquement dominent tout ce qui est les organes de sécurité, la police de sécurité, la Gestapo dont vous parliez tout à l'heure, la police criminelle est gérée par la SS, et puis les polices locales qui vont être aussi encadrées par la SS, et enfin, on pourra peut-être y arriver, les camps de concentration.
Donc la nuit des longs couteaux, prise de pouvoir de la SS.
Prise de pouvoir par la SS et début d'ailleurs du gonflement pléthorique des effectifs de cette organisation.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1, voilà, de Wagner que vous aimez tant, vous avez dit. C'est un extrait de la marche funèbre de Siegfried.
C'est curieux comme Wagner, qui est tellement merveilleux par ailleurs, prend des connotations très spéciales lorsqu'on parle du Troisième Reich, évidemment. Alors, un aspect de cette nuit des longs couteaux qui est très intéressant, c'est qu'il a servi les crimes qui ont été commis pendant ces deux, trois jours, ont servi d'éléments d'accusation, de chefs d'inculpation au moment beaucoup plus tard du procès de Nuremberg.
Mais oui.
Fabrice d'Almeida.
Oui, effectivement, parce que à Nuremberg, on essaye de juger un crime qui est le crime contre la paix. Et on va notamment montrer que le projet militaire et guerrier de Hitler est inscrit dans cette nuit des longs couteaux, dans lesquels, encore une fois, ces gens ont été tués sans loi, sans procès, sans procédure. Donc il y a vraiment là un crime. C'est pas une exécution. Ce sont des assassinats, 200 assassinats.
Et ça, c'est assez pratique dans le cadre d'un procès, si je puis dire. Au moins, on a des choses très concrètes à reprocher.
Et voilà. Et on peut mener l'enquête et on peut renforcer. Alors que ça va être beaucoup plus difficile de prouver la responsabilité directe d'un certain nombre de dirigeants nazis, par exemple dans le génocide des Juifs, parce que ils ont donné des ordres, soit, mais essayer de montrer leur action, c'est-à-dire le pistolet à la main, parce que dans les tueurs qu'on a là. Quelqu'un comme Theodor Heicke. Theodor Heicke, c'est le premier chef du camp de Dachau, du premier grand camp de concentration SS. Et c'est lui qui tire sur Röhm. C'est lui qui est envoyé et qui va être l'assassin. Donc il y a un lien direct entre des très hauts responsables du Troisième Reich et puis ce crime-là. Donc les procureurs américains pourront mener l'enquête et porter la queue d'accusation.
Ce qu'on découvre ou redécouvre en lisant votre ouvrage « Ressources inhumaines, les gardiens de camps de concentration et leurs loisirs » qui vient de paraître chez Fayard, c'est que les SA avaient largement commencé le travail qui sera poursuivi et sur une très grande échelle par les SS. On oublie souvent, écrivez-vous, que la SA dirigée par Ernst Röhm jusqu'en 1934 et forte de 400 000 adhérents gère ses propres établissements. Ces camps de concentration sont aussi grands, voire plus redoutés que ceux encadrés par les SS. Après l'arrivée de Hitler au pouvoir, Röhm a obtenu que les membres actifs de la SA soient reconnus comme une force de police auxiliaire, c'est ce que nous disions à l'instant. À Berlin, par exemple, 3000 SA sont inscrits sur les rôles de police. Dans cette région, les hommes aux chemises brunes ont notamment aménagé un camp voué à une relative longévité, Oranienburg. Dans cette petite villégiature où les Berlinois viennent volontiers se promener, le camp est installé dans une ancienne brasserie, au centre. C'est une caractéristique fréquente des petits camps que de s'être constitué, d'avoir fonctionné au vu et au su de tous, et ce, jusqu'en 1945. Et vous ajoutez, Fabrice d'Almeida, un peu plus loin, chez les SA comme chez les SS, tous les prisonniers dépendent du bon vouloir des gardes et des officiers, au sommet desquels règne le commandant du camp. À Oranienburg, il s'agit de Werner Schärfer. Schärfer est de ces hommes sans qualité particulière qui se découvrent une vocation pour l'administration pénitentiaire version nazie, un goût pour la violence en temps de paix, une belle carrière s'ouvre à lui. Indice de sa brutalité, en quelques mois, 16 prisonniers sont abattus par les SA, une statistique proche de celle des camps gérés parallèlement par les SS. Les SS n'ont rien inventé, si je puis dire.
Mais ils travaillent tous ensemble. Ce sont des anciens combattants, ce sont pour la plupart des hommes qui ont vécu le chômage, qui ont vécu les bagarres de rue, qui se sont construits dans la virilité marquante et frappante. Et donc, quand ils se retrouvent responsables de camps de concentration, le camp d'Oranienburg, le camp de Hohenstein, hein, des établissements. Ce qui est fou, c'est ce n'était pas une ancienne brasserie, vous imaginez. Quelques points d'eau, pratiquement pas de toilettes.
C'était une fabrique de bière.
Exactement. En quelques semaines, on met là-dedans 3000 hommes. Toute petite surface, gardée par une cinquantaine ou une centaine de SA. Donc, vous imaginez les conditions de vie déjà terribles. Et on leur fait faire des exercices idiots, parce que comme ils ne savent pas comment passer le temps, les SA s'amusent, en fait, sur les détenus. Et ils les frappent, et ils leur font faire des exercices physiques, et puis ils ne les nourrissent pas, et puis de temps en temps, ils mettent... Et puis quand ça commence à déborder beaucoup trop, comme dans le camp de Hohenstein, à côté de Dresde, où ils vont faire des meurtres, tellement de meurtres que ça va arriver à la morgue d'un hôpital qui ne sait plus quoi en faire, et bien à ce moment-là, il va même y avoir des procès contre quelques SA, notamment en 1935. Donc c'est dire à quel point leur violence paraissait extrême, au moins aussi extrême que celle que nous avons tous en tête, c'est-à-dire celle des SS, hein, avec ces grands camps de la fin du nazisme et surtout de la Deuxième Guerre mondiale.
Cela soit dit pour tous ceux qui auraient pu être tentés de victimiser les SA...
Bien sûr.
Qui ont payé pendant cette nuit des longs couteaux.
Mais c'est un de nos meilleurs historiens du nazisme qui disait que si c'était les
on
SA...
On peut citer du reste, oui.
Pardon.
J'ai honte.
On va demander à Lorena, à mon avis.
J'ai honte, mais j'ai un petit trou de mémoire. Mais donc, qui a dit cette phrase que je trouve absolument terrible. Si les SA avaient dû commettre le génocide tel qu'il s'est déroulé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils l'auraient fait, eux, à coups de bâton. C'est dire la violence et la brutalité de ces hommes qui n'auraient pas eu besoin, eux, d'utiliser du gaz pour tuer en masse.
Alors ce que vous expliquez, et là bien sûr on parle plutôt de SS, hein, vous nous parlez de toute l'histoire de ces camps de concentration, c'est que le personnel qui était des gardiens, enfin tout le personnel d'encadrement, tout le personnel pénitentiaire, je ne sais pas quel terme employer qui ne soit pas choquant, était en fait parfaitement organisé, et ce que vous nous faites partager d'une façon assez extraordinaire dans cet ouvrage, dans Ressources inhumaines, c'est le quotidien de ces gens qui avaient aussi leurs loisirs, qui avaient aussi leur emploi du temps, leurs heures à faire chaque semaine. Enfin, on a l'impression de quelque chose de très, presque d'une activité banale.
Mais c'est le point de départ, hein, qui m'a absolument étonné, c'est que je commence à travailler sur les camps et tout d'un coup je découvre qu'il y a des horaires de travail. J'avais jamais pensé
voilà,
à ça.
Par exemple, voilà.
J'avais jamais pensé que effectivement il y avait les tours de garde, il y avait les rotations, et donc à un moment donné le travail dans le camp s'arrête. Le travail au contact des prisonniers s'arrête. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est prévu? Et là, et ça m'a, j'allais dire, ça m'a fait tomber de ma chaise aux archives. Je tombe sur des notes de frais et je m'aperçois qu'en fait, on leur achète de quoi se distraire, de quoi s'amuser. On met en place tout un système de jeux, de loisirs, de promenades, de visites, de musées presque. On leur installe un zoo dans le camp de Buchenwald, par exemple. Bref, toute l'administration SS se met au service de ces hommes pour leur bien-être.
Et il y a des pages assez étonnantes dans votre livre où vous nous montrez en quelque sorte l'humanité des bourreaux. Est-ce que c'était votre objectif? Parce que c'est un peu ce qu'on ressent néanmoins.
Mais je pense que, enfin, ma génération n'a pas vécu cette période-là. Je pense que quand on a vécu cette période-là, au lendemain de la guerre, on devait avoir le sentiment que, de la même manière que pour les bourreaux, les victimes étaient pas humaines, c'était des animaux. À contrario, voir les crimes qu'ils avaient commis donnait l'impression que c'était des monstres. Voilà. Mais vu aujourd'hui, évidemment, tout ça, c'est de l'humain. Et c'est de l'humain qui fonctionne avec des systèmes, des idéologies, des croyances. Et c'est ça qui est monstrueux. Ce ne sont pas ces humains en tant que tels qui seraient d'une nature différente de nous-mêmes. Par contre, les systèmes politiques qu'ils mettent en place, les règles qu'ils établissent, les gestes qu'ils accomplissent, eh bien, c'est cela qui est monstrueux. Et là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de doute. En revanche, tout ça ne vient pas par hasard. Et c'est une espèce de technique, c'est une espèce de mode de gestion. Et c'est pour ça que je voulais insister sur cette dimension de gestion des ressources inhumaines, c'est-à-dire y compris de notre violence, eh bien, qui est mis en place par la SS. Donc là, il y a vraiment un problème de gestion des organisations.
Il y a un auteur qui m'est cher, qui a été longtemps le vice-président de la société Oscar Wilde en France, c'est Robert Merle qui avait écrit « La mort est mon métier ». On était dans cet esprit justement du quotidien finalement des personnes qui faisaient partie de cette machine à tuer extraordinaire mise en place par...
Exactement, on avait eu conscience de ça pour les commandants de camp comme eux, qui a inspiré Robert Merle, mais on n'avait pas pensé que ça descendait aussi bas dans la hiérarchie, c'est-à-dire que même l'homme de troupe SS faisait partie d'une sorte d'aristocratie dont il fallait au mieux arranger les jours.
Ce que vous montrez aussi, c'est la très grande différence d'organisation entre tous ces camps nazis et par ailleurs les goulags soviétiques, où là le personnel d'encadrement, où là les surveillants et les gardiens sont à peine mieux traités ou considérés que les détenus eux-mêmes.
Mais parce que clairement, pour les nazis, le camp de concentration accomplit une action déterminante pour la société allemande. Il détruit les ennemis intérieurs et en partie les ennemis extérieurs. Pour les soviétiques, en fait, le camp de concentration, c'est là qu'on envoie le rebut. Et on va envoyer dans les camps de concentration comme gardien le rebut. C'est-à-dire que c'est une punition au sein du NKVD d'être affecté à la direction des camps. Alors qu'au sein de la SS, au départ, on est volontaire pour aller dans les camps. Il n'y a qu'à la fin de la guerre, à l'extrême fin de la guerre, que ce sera une contrainte d'aller travailler dans les camps. Pourquoi ? Parce qu'on a des carrières plus rapides, on est mieux logé, on est mieux avantagé. Que chez les soviétiques, au contraire, on va en venir à recruter des prisonniers pour réussir à combler les effectifs de gardiens, tellement personne ne veut y aller. Il faut dire que, regardez
oui,
où on les envoie.
Aussi, c'est terrible et
exactement,
affreux comme condition.
Les Lackpunkt, comme on les appelle, qui sont en Sibérie, dans le froid, avec des conditions extrêmement rudes de vie et très peu d'alimentation, pratiquement aucun lien avec la civilisation.
Est-ce que deux totalitarismes ont forcément les mêmes conséquences ? C'est une des questions qu'on est amené à se poser, évidemment.
En tout cas, l'infrastructure de violence a été extrêmement parallèle, mais peut-être du point de vue de la gestion des élites, ont-elles fonctionné aussi en parallèle ? Et le meurtre de Röhm a peut-être pour correspondance celui de Kirov, que Staline effectue un peu plus tard, en novembre 1934.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. Je rappelle que votre ouvrage donc sur les gardiens de camps de concentration et sur leurs loisirs, j'ai envie d'ajouter moi de genre allonge le sous-titre et sur leur quotidien tout simplement,
merci.
La façon dont tout ça a été vécu, s'appelle « Ressources inhumaines » et c'est publié chez Fayard. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors aujourd'hui avec les experts, nous allons parler de votre quotidien, le vôtre Franck, mais celui de tous les auditeurs, de leurs loisirs, en tous les cas, ce qu'ils aimeraient bien avoir. Nous allons courir après le temps, ou plutôt essayer de stopper ce temps et trouver le moment à dégager pour notre épanouissement personnel. Comment concilier vie de famille, vie personnelle, vie professionnelle ? C'est une grande question et nous allons y répondre avec les experts européens qui attendent vos questions au 3921. C'est toujours 34 centimes d'euros la minute, je pense.
Vous allez parler des gens qui n'ont plus ni loisirs ni vie personnelle ?
Nous allons parler
vous
de vous.
Vous pouvez nous appeler, Franck. Hein. C'est le 3921, donc. Hein.
Maquillez votre voix, on ne vous reconnaîtra pas. On vous appellera Gilbert.
Francesco.
Et en attendant, à demain, Julia.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.